Et vous écoutez France Culture. Un kilo de culpabilité vaut moins qu'un gramme de désir. Jack Heath. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui vous pousse ce soir à entrer dans le cercle noir et à danser la sarabande au son de Mange tes morts de Jack Heath. Assumé par Super 8, Powerplay de Mike Nicol, paru au seuil, Satanas de Mario Mendoza, publié par Asphalt, et La Petite Gauloise de Jérôme Leroy, édité par la Manufacture de Livres. Un nuage de magisme surréaliste et d'élégance bohème, ensuite, avec le maître Paco Ntielman qui nous dira tout le bien qu'il faut penser des deux DVD et Blu-ray de Jacques Rivette, paru aux éditions Potemkin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mauvais genre polar ce soir, mais également mauvais genre rêverie ou mauvais genre sérieux, le mauvais genre roman feuilleton. Avec vous, Paco Ntielman.
Comme il vous plaira, voilà. François.
Puisque vous avez en effet participé à ces deux sorties magnifiques chez Potemkin, donc de Rivette, qui nous permettent de voir dans des conditions désormais décentes, dit le vieux cinéphile, Céline et Julie vont en bateau et Le Pont du Nord.
Et c'est pas peu de le dire, parce que voilà. Céline et Julie vont en bateau est un des films les plus importants réalisés dans le cosmos depuis des siècles et des siècles.
Et vous allez nous dire pourquoi, parce que ça n'est pas une mince nouvelle. Vous l'avez vu, Élise Lépine, Céline et Julie vont en bateau?
Non, pas encore, mais j'en ai entendu tellement de bien dans la bouche de Pacôme que ça ne saurait tarder, bien sûr, surtout avec cette sortie.
Une actualité, petite actualité, grosse actualité.
Je sais pour les Parisiens qui peuvent aller au Salon du Livre demain,
dimanche
à 18h avec David Lagercrantz pour un grand entretien sur les adaptations en série et en film des romans Millennium.
Très bien, et donc vous allumez le débat?
J'anime le débat, j'anime la rencontre.
Très bien. Donc, retrouvez Élise Lépine demain au Salon du Livre. Hubert Prelongeau, actualité.
La préface chez un éditeur bordelais dont on dira jamais assez de bien, qui s'appelle Arbre Vengeur.
Ah, l'Arbre Vengeur, mais vraiment, je témoigne.
On est là, on a du mal
c'est
à.
C'est un excellent
parler,
éditeur.
Qui fait des rééditions formidables de textes de genre. Et là, il ressort les nouvelles de l'Antimonde de Georges Langelanne, qui est un personnage dont le nom est assez méconnu, mais dont l'œuvre est célébrissime.
Des grands vieillards qui
voilà,
ont leur
nous
enfance.
Voilà, que nous sommes, François.
Lisait la collection
Barabou
Fantastique.
Dire. Et c'est lui qui a écrit la nouvelle La Mouche, dont on a tiré un film que personnellement je trouve assez mauvais, mais qui a assez fan de avec Vincent Price, de Kurt Newman, La Mouche Noire,
oh oui, c'est
et
quand
le
même
chef-d'œuvre.
Très bien, La Mouche Noire.
On peut discuter. Et le chef-d'œuvre moins discuté de David Cronenberg, La Mouche, donc remake en 86, et les deux tirés d'une nouvelle française, et donc chantons en cette ère macronienne un cocorico flamboyant.
Absolument.
Pour Georges Langelanne.
Bon, on en parlera sûrement à mauvais genre.
J'espère, j'espère.
C'est
une bonne émission, il ne devrait pas rater ça.
C'est une bonne émission qui ne rate jamais les bons sujets. Merci à toutes et à tous. Bien, nous allons pouvoir maintenant entamer notre cérémonial du samedi avec vous, Céline Duchesnay. Ouvrons l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et la lettre?
La lettre L, comme
Langelanne.
Le beau. Non,
le beau,
Nicolas Le Beau.
Quand le lapin commence à mutiler cet arbre se met à saigner, et puis ça constitue un traumatisme qui a presque trait à celui de la naissance, en fait, pour cet adolescent. On voit la jeune fille qui les accompagne se transformer, se masturber, et puis là, on décapite donc cet adolescent, et puis là, l'histoire commence vraiment. On décapite l'arbre aussi, simultanément. On coupe l'arbre, on décapite l'adolescent, et puis là, c'est vraiment le début, en fait, pour le lapin, quoi.
Méfions-nous des lapins blancs, surtout quand ils ont le charme de l'enfance, des chaussettes blanches bien tirées sur les mollets, un maillot de corps sobre et un ruban rouge si joliment noué autour du cou.
À y regarder de plus près ce lapin blanc qui n'a de lapin que les oreilles, on voit ses yeux vides sous de longs cils recourbés. Méfiance donc, car cette créature sans nom ni sexe a été créée pour parasiter les univers qu'elle traverse. Elle a vocation à angoisser le monde qui l'entoure. Nul étonnement alors qu'à son contact, les arbres soient tronçonnés, les têtes décapitées, les bras mutilés. Bienvenue dans l'univers du dessinateur de Nicolas Lebeau et de sa toute nouvelle revue White Rabbit Dream.
Un monde inquiétant en fait, qui est relativement menaçant dans la mesure où ça ressemble un petit peu à une utopie. Il y a une certaine... Il y a un certain climat un peu idyllique qui s'en dégage. En fait, après, au moins de signes de faiblesse, on peut se faire mordre, décapiter, violer, dépecer. Enfin, c'est un univers qui a trait à l'enfance, où il y a une insouciance qui était très présente. Les personnages sont dans une espèce de naïveté unidimensionnelle. Il y a une impermanence en fait dans leur caractère. Les choses peuvent changer très brusquement. Les personnages peuvent se transformer. Un personnage sympathique et souriant peut devenir subitement sous l'influence d'une vision ou d'une interaction avec un autre personnage particulièrement cruel. Enfin, ils peuvent s'adonner, disons, à la cruauté sans avoir forcément une conscience aiguë de ces actes. En fait, c'est en cela que l'univers est inquiétant, même si je peux dire il y a un côté un peu féerique, joli, mignon, rassurant, mais au moins de signe de faiblesse.
Vous voilà prévenu, le lapin blanc n'aime pas les faibles. Et d'ailleurs, les pages de garde de La Coupure, le premier volume de White Rabbit Dream, finissent de vous mettre en garde. Plein de bouches aux dents aiguisées prêtes à vous mordre et des yeux glaçants et transperçants. Et c'est d'ailleurs avec une sorte de frisson d'angoisse que vous oserez continuer votre lecture. Là, le lapin blanc vous mènera dans des dessins, textes, aquarelles, photos de divers artistes dont le thème principal est la mutilation. On y retrouve tout ce qui fait le charme du monde de Nicolas Lebeau, un mélange de genres picturaux et graphiques, des adolescents aussi innocents que pervers, des couleurs douces et pastels. Cela vous donnera aussi l'occasion de lire ou de relire ces incroyables romans graphiques Hygiène Rose, chapitre 1, et La Fille Miroir, qui mettent en scène un personnage, Hygiène Rose, double inquiétant de notre lapin. Et pour plus d'informations, allez sur le site de Nicolas Lebeau, www.nicolaslebeau.com, ou sur le site de whatrabbitprod.com, ou alors allez chez votre libraire retrouver ses ouvrages.
Merci Céline pour cette entrée. Nicolas Lebeau de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres, dont je rappelle que c'est également un livre aux éditions NADA.
L'Encyclopédie pratique des mauvais genres, oui, bien sûr.
Absolument, et d'ailleurs nous attendons le tome 2.
Avant, je vais vous faire une petite série documentaire sur les sorcières pour me changer les
idées.
Oui, mais ce sera fin avril.
Dites-en plus.
Ce sera fin avril, mais je vous en reparlerai d'ici là, à savoir
sur France Culture.
Sur France Culture, bien sûr. Comment est-ce qu'une sorcière peut être queer? Comment est-ce qu'elle peut être anarchiste? Comment et pourquoi aussi, à une certaine période de l'histoire, des femmes ont pu être brûlées pour crimes de sorcellerie? C'est tout ça que nous verrons ensemble sur France Culture, François. Avec, bien évidemment, Laurent Polleret.
Bah, bien évidemment. Nous en reparlerons au mois d'avril. Commentaire sur les sorcières.
L'avenir est femme, l'avenir est sorcière, Bertrand Mandicot.
Voilà. Et puis à la fin, dans la deuxième partie de l'émission, oui, pas continuellement, vous allez nous confronter à deux figures de sorcières contemporaines,
oui,
parce que c'est un peu ça, les créatures de Rivette, ce sont des sorcières.
Oui, et puis elles annoncent très en avance, quoi, dans les années 70, tout l'univers de Starhawk et de la sororité. Hein. C'est sûr que c'est un film prophétique à ce niveau-là aussi, Céline Julien en bateau, à plein de registres, mais à celui-là aussi.
Oui. Super. On va en reparler donc dans quelques minutes en deuxième partie d'émission, et pour l'heure, eh bien, précipitons-nous vers l'actualité polaire au son de la musique. Musique de Chains for Your Good, choisie par Laurent Polleret, bien sûr. On commence par Jack Heath, Mange tes morts, aux éditions Super 8, dont on ne dira jamais assez, Élise Lépine, à quel point c'est une bonne maison, parce que c'est sûrement une des dernières où on peut trouver ce type de littérature. Avant, il y avait des collections dédiées aux, je dirais, aux romans d'horreur, aux romans gore. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus rare, et Super 8 est toujours là pour maintenir
le flambeau. Super 8 est là, voilà, pour sortir des pépites comme ça, très transgressives, très étonnantes, et pour le coup, souvent assez gore, notamment ce nouveau livre, Mange tes morts, de Jack Heath, effectivement, qui part sur une trame assez classique, en fait, d'un thriller qui se penche sur la disparition de deux adolescents. Alors, l'enquête est menée par le FBI, qui patine un peu. Ils vont faire appel à un consultant d'un genre très particulier, qui s'appelle Timothy Blake, et qui fait partie de ces gens qui ne font qu'une bouchée d'un Rubik's Cube ou d'une énigme du père Fouras. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a une intuition extrêmement, tout à fait exceptionnelle, et qui, donc, arrive à résoudre tout un tas d'affaires très compliquées. Il va se pencher sur le cas de ces disparitions d'adolescents, qui va être le fil conducteur du roman, c'est-à-dire qu'on va suivre ce thriller avec différentes pistes, potentiellement de la pédophilie, du trafic d'organes, etc. Mais ce n'est pas le plus intéressant dans ce livre, c'est une caractéristique de Timothy Blake qui a un goût très prononcé pour la chair humaine, c'est-à-dire que Timothy est cannibale. On va comprendre pourquoi assez tard dans le livre. D'ailleurs, c'est une raison qui est assez bouleversante et poignante. Et donc, le deal qu'il a avec le chef du FBI, c'est que pour chaque enquête qu'il arrive à résoudre, il a le droit de manger un condamné à mort qui est sorti du couloir de la mort pour lui et livré tout frais décédé à ses dents.
Avec quand même la présence dans l'organisme du dit condamné de substances létales.
De substances létales.
Qui donne un petit goût quand même.
Voilà, mais il y a c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que le cannibalisme est abordé de façon très clinique, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, je peux pas non plus manger n'importe qui, je peux pas manger le premier toxico de la rue parce que je vais attraper des maladies. Bon voilà, on se rend compte que le cannibalisme est aussi une pratique qui a ses règles
et
ses précautions. Voilà, donc en fait c'est un livre qui est extrêmement intéressant justement pour ça, parce qu'on a cette dimension de dévoration dans le texte. Il vient interroger notre rapport à la proximité entre les humains, parce que notre héros Timothy va tomber amoureux de l'une de ses collègues du FBI. L'attirance est réciproque, mais comment est-ce qu'il va gérer cette histoire d'amour naissante, étant donné qu'à chaque fois qu'elle l'approche, il a envie de la manger. Et finalement, le fait que Timothy est quelqu'un qui est animé à la fois par cette envie de dévorer son prochain et aussi par des pulsions, il se pose beaucoup de questions sur la moralité de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il est attaqué par un chien et il veut pas tuer le chien. Il ne veut pas tuer des bonnes personnes. Il veut que le sacrifice qu'il va commettre ait un sens. Donc en fait, on se dit finalement, ce cannibale représente bien les pulsions de vie et les pulsions de mort qui traversent les sociétés, notamment la société américaine, qui applique quand même encore la peine de mort. C'est pas lui qui tue dans le roman, ça reste la société.
Oui, tout à fait. Et le personnage, en fait, le livre repose beaucoup sur ce personnage et sur ce rapport au cannibalisme, qui est pas du tout un gadget. Donc on pense évidemment à Hannibal Lecter, on pense aussi à Dexter, et c'est assez intéressant de voir que cette transgression suprême du cannibalisme qui fait encore frémir, que ça soit dans le roman ou dans la vraie vie, on se souvient de l'affaire des Andes, on se souvient donc de ces débats, est-ce que tu l'aurais fait, est-ce que et là.
Et puis même le cannibalisme amoureux, mange-moi, enfin avec
tout à fait.
Les affaires ouais. De mutilation.
Et là, ça prend une vraie dimension humaine, parce que ça n'est traité ni par l'ironie, ni comme une anecdote, ni comme une justification un peu complaisante. Donc il y a une vraie transgression et qui en même temps est très intelligemment pensée, avec ses limites, avec ce qu'on peut s'autoriser, avec ce qu'on ne peut pas, et avec la réflexion du cannibale sur lui-même. Et ça, je trouve que c'est le point capital. Au lieu d'avoir, comme trop souvent, des serial killers ou qui sont des brutes sans beaucoup de d'arrière-plan et dont le seul but est de faire frémir, là, il y a quelqu'un qui est différent, qui s'interroge, et ça devient aussi un moment, une réflexion sur la différence. Alors, une différence à laquelle on n'adhère pas aussi évidemment que quand c'est, je sais pas, Elephant Man, quand c'est les premiers films anti-homophobie, quand c'est où là, il y a une identification spontanée à la différence. Là, elle a justement encore un côté un peu révulsant et on nous amène, pas à l'admettre, mais à essayer de la comprendre. Et ça, c'est très fort. Et tout ça se déroule à travers une intrigue policière qui tient la route, géniale, mais qui est quand même qui est bien menée. Donc là aussi, ce portrait psychologique ne dévore pas, si
vous m'autorisez cette...
ne dévore pas le reste de l'intrigue et le plaisir de lecture du roman qui est réel. Donc c'est effectivement une découverte. C'est une découverte parce que c'est le premier roman adulte d'un auteur jeunesse, qui a déjà écrit une vingtaine de livres qui avaient été plutôt remarqués.
Soudain, je le vois. Il descend la colline en traînant la patte, nu, en dehors de son slip blanc, facile à repérer dans le noir. J'essaie de le prendre par surprise, mais il m'entend arriver et se retourne, les yeux écarquillés de terreur. « On est en enfer ici ?» demande-t-il. « On est au Texas. » Brusquement, il semble me reconnaître. Il a dû m'apercevoir derrière la vitre au moment de son exécution. Il attrape une pierre et me la jette à la figure. Je l'attrape. C'est une grosse pierre coupante. L'impact m'entaille le poignet. Je la lui balance à mon tour, le touchant à la gorge. Elle lui écrase la paume d'Adam. Il bascule en arrière en s'étouffant. Le coup fatal. J'entends le sang gargouiller dans ses poumons, mais je n'attends pas que ça la tue. J'attrape la pierre et le frappe de nouveau, de toutes mes forces. Son crâne s'enfonce et il s'affaisse. L'adrénaline redescend et je tombe à genoux, épuisé. Autour de moi, des insectes volettent dans la pénombre. La lune transperce les feuillages. J'entends l'autoroute au loin. Je suis à des kilomètres de mes barils. Le Tanzanien est trop lourd pour que je le ramène à la camionnette en un seul morceau et je n'ai pas de scie à métaux sur moi. Il faudra que je reprenne la route pour aller chercher les barils et les rapporter ici. Ça fait beaucoup de boulot, le ventre vide. Je retire mes vêtements pour éviter de les tacher. Je me passe la langue sur les lèvres et j'attaque. Un extrait de « Mange tes morts » de Jack East, paru aux éditions Super 8. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans cette mise en scène en miroir avec le personnage d'Hannibal Lecter, c'est qu'Hannibal Lecter avait quand même une capacité à ritualiser de manière assez flegmatique son activité. Il avait une distance, une appréciation assez gastronomique. J'ai toujours l'impression qu'il regardait les gens comme on regarde la carte du menu en évaluant les bons morceaux, les bas morceaux, les hauts morceaux, ce qu'il allait se réserver, comment il allait le manger. Donc il y a toute une dimension culinaire et gastronomique chez Hannibal le cannibale. Chez Timothy Blake, c'est tout à fait différent puisque je dirais la mécanique physiologique, alimentaire et nutritive fonctionne comme la mécanique intellectuel, c'est-à-dire il réagit à des intuitions sur une affaire criminelle comme il réagit à des odeurs ou à des espèces de pulsions alimentaires. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que tous les gens sont brusquement décomposés en termes de en aliment potentiel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'approcher de quelqu'un sans brusquement respirer une odeur qui induit brusquement peut-être un horizon cannibale. Et ça c'est étonnant parce qu'il est tout à fait dans l'instinct, il est dans la pulsion, il est absolument pas dans la prévision et dans le rituel comme Hannibal.
C'est un harceleur alimentaire en
voilà,
quelque sorte.
C'est exactement ça, malgré lui évidemment.
Oui, et puis le fait que qu'il soit l'esclave de ses pulsions, hein, parce qu'il ne voudrait pas Hannibal Lecter, c'est quelqu'un qui se repaît à tous les points de vue de ses victimes et de leurs souffrances, alors que lui, il voudrait mener une vie normale, et il est l'esclave de ses pulsions alimentaires étranges, et donc ça suscite chez nous, en tout cas chez moi, beaucoup de compassion pour lui. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'envie que lui arrive à se construire une existence qui lui convienne. Qu'on aura de compassion, par exemple, pour ces deux adolescents qui disparaissent et finalement dont on finit par se ficher un peu au gré de la lecture. Hein. L'enquête est très bien, comme le disait Hubert. C'est un livre qui pourrait, un thriller qui serait passable s'il n'y avait pas ce cannibale. Mais ça apporte justement un élément de comparaison. Et puis, le fait aussi que ce Timothy soit utilisé comme un peu l'éboueur par la société, par différentes instances, par différents pouvoirs sociaux, comme un éboueur bien pratique pour faire disparaître, pour faire foutre sous le tapis tout ce qui est dérangeant.
Poussière sous le tapis.
Voilà, ouais. et malgré lui, et à son, un peu à son corps défendant. Donc ça, c'est intéressant.
À découvrir, donc premier roman pour adultes, et surtout premier roman en français, j'imagine
Premier roman en français, et premier roman effectivement pour adultes. Il écrit pour la jeunesse, on n'arrive pas à le croire, mais...
Oui, là, on sent qu'il a dû évacuer quand même des tas de frustrations accumulées sur 20 romans jeunesse. Non, ça, Jack, tu peux pas leur faire faire, et là, les vannes sont ouvertes.
Voilà. Mais je tiens à dire aussi, vraiment, un auteur qui peut plaire à un large public, hein, pas seulement aux amateurs de gore, ou...
Ce cas fait Dexter, à mon avis, il est encore plus proche que Hannibal Lecter, par cette interrogation sur la pulsion qui le mène et la façon dont l'un comme l'autre, Dexter par son rite et lui là par son aide à la police, essaie de le faire basculer du côté du bien avec des guillemets.
Donc, comme le dit l'éditeur, on est entre Sherlock Holmes, Dexter et Hannibal, mais plutôt Dexter qu'Hannibal. Manche des morts de Jack East, c'est aux éditions Super 8. Les Ginniga, choisi par Laurent Polleret pour Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Deuxième choix polar dans notre émission Powerplay de Mike Nicol au Seuil dans l'excellente collection Cadre Noir.
Tout à fait, collection qui continue.
Alors Mike Nicol.
Alors Mike Nicol est un écrivain qui est passé au noir. C'est un écrivain sud-africain qui a commencé par faire quelques romans de littérature classique et puis qui, depuis 4 ou 5 livres, est passé au noir et s'est imposé... très vite, aux côtés de Deon Meyer et Roger Smith, comme une des voix les plus percutantes du polar sud-africain. Et comme les autres auteurs de polar sud-africain, il dépeint une Afrique du Sud très loin des rêves idéaux de Mandela, ravagée par la violence, par la guerre des gangs, par l'insécurité, Powerplay se passe en plein milieu d'une guerre des gangs. C'est un peu le trône de fer chez les truands sud-africain. Donc le héros Titus Sanders découvre un jour que son fils a été jeté au requin, donc est victime d'une tentative d'assassinat. Il voit là derrière la main d'une dénommée Tamora, qui est une de ses anciennes associées. Donc il lui enlève son fils, qu'il découpe en petits morceaux, et puis s'enchaîne comme ça une série d'horreurs, de représailles. Et les Shakespeareens idolâtres ont reconnu la trame de Titus Andronicus, qui est une des premières pièces de Shakespeare et dont le vrai nom était la lamentable histoire romaine de Titus Andronicus. Et effectivement, on est dans un milieu totalement lamentable, mais irradié par la tragédie. Et il y a deux choses que je trouve extrêmement fortes dans ce livre et dans la façon dont il est écrit. C'est d'abord que, alors que le contexte racial est très présent, il n'est pas imposé d'emblée. C'est-à-dire qu'il faut quelques pages avant de savoir qui est blanc, qui est noir, et on sent qu'à la fois c'est quelque chose dont ils ne s'en sortent pas, puisque c'est à la base de l'identité de chaque personnage, et en même temps, ils existent en dehors de ça. Donc là, il y a un passage de l'un à l'autre qui est très très fort, et puis il y a surtout la manière incroyable dont la violence est amenée, c'est-à-dire dans un coin de phrase, comme ça, au détour d'un moment, sans qu'on s'en rendre compte, et il faut relire un passage pour se dire mais est-ce qu'il vient de me dire ça? Et effectivement, il a dit des choses totalement horribles, et cette introduction d'une violence peu spectaculaire, l'incorpore au quotidien et en dit très long sur la manière dont elle gangrène la société sud-africaine.
Au cours des jours suivants, la chaleur retomba. La ville se réveilla avec une brise aux fenêtres, l'odeur de la mer et des poissons. Black Aaron regarda la montagne, le petit banc de nuages qui barrait la paroi, et songea « Oh merde, il va y avoir du vent !» Il détestait le vent, sa vibration incessante dans les rues de la ville, le claquement des revêtements sur le toit, le gémissement des fils électriques suspendus. À Sunset Beach, en ses premières heures de la journée, Lavinia, tuméfié, un pansement sur la bouche, confectionnait des tourtes à la croûte épaisse et des samosas à la viande hachée et au curry. Elle utilisa la chair du fils de Tamora Ghul, puis empila les tourtes et les samosas dans le congélateur. Durant la matinée, le vent se leva au sud-est et fit tomber un nuage sur la montagne. Il rugit à travers la ville et projeta du sable dans les yeux des habitants. Le vent et la lumière éblouissante provoquèrent la cécité en début d'après-midi. Un extrait de Powerplay de Mike Nicol au seuil, choix d'Hubert Prolongeau pour Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Effectivement, là, la consommation de tourtes à la viande, on a passé.
Voilà, est amené comme ça, c'est très très impressionnant. On s'arrête, puis on relit, on dit c'est bien ce que j'ai lu, et oui, c'est bien ce qu'on a lu.
Mais alors, justement, comment il se positionne à l'intérieur d'univers du polar sud-africain? Est-ce qu'il est.
Parce qu'il est beaucoup plus noir et désespéré que d'autres. Il y a très peu de personnages positifs. Il y a une jeune femme, mais qui s'en sort assez mal. La police est inefficace. Il n'y a pas de héros comme le héros de Don Meyer, les héros, puis on a deux, trois, Lemley, qui eux représentent encore un vague espoir. Non, on est dans une espèce de magma bouillonnant où ne règne que violence, règlement de compte, inhumanité, et il n'y a pas vraiment de leur d'espoir. Alors, il y a là-dessus une trame politique, mais ça, c'est plus traditionnel, mais c'est très intéressant là, qui vont intervenir, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, les Chinois, qui deviennent quand même les gros méchants actuellement.
Deux hommes d'affaires placides.
Voilà, placides, mais coriaces.
Mais coriaces.
Et qui, en fait, tirent les ficelles de tout ça avec l'aide du gouvernement sud-africain. Donc, il y a aussi une vraie réflexion politique. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus frappant, c'est ça. C'est cette espèce de tragédie dans laquelle on est plongé immédiatement avec ses excès, avec cette violence hors norme et en même temps cet ancrage dans un quotidien qui se délite, hélas, de manière...
Oui, parce qu'on a le sentiment que le présent est totalement incertain, puisqu'on va la mémoire évidemment plonge loin dans l'origine de l'esclavage et puis la colonisation notamment hollandaise, avec notamment un des personnages qui possède la plage sur laquelle ont été défaits les colonisateurs. Donc c'est comme une sorte de lieu de mémoire qu'il a à disposition et qui lui rappelle en permanence la nécessité du combat ethnique et la défense de l'Afrique contre toute forme d'impérialisme. Alors ça, c'est un aspect. Puis là, on voit les deux Chinois placides qui arrivent avec l'attaché caisse, qui sont pris en main par la garde du corps et qui incarnent un avenir sur lequel on tient. Donc et au milieu de tout ça, il y a une espèce de violence où effectivement les gens ont fait des tourtes à la viande et on s'extermine avec l'aide des mercenaires russes.
Et le mot apartheid n'est jamais prononcé. Donc on est vraiment, on est après, on n'est plus là-dedans. C'est paysage après la bataille, quoi. On a gagné, ok, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Et c'est un constat extrêmement, extrêmement désabusé que fait Nicol, mais qui rejoint celui des autres auteurs de polar sud-africain. Et c'est amusant de voir que on succédait donc à la génération des Gordimer, Lessing, Brink, qui dénonçaient.
Ça, c'était l'époque de la lutte anti-apartheid.
Après, il y a eu Coetzee qui est un peu entre les deux. Et aujourd'hui, en fait, c'est la littérature de genre qui a récupéré ce regard extrêmement critique et dur sur la société sud-africaine.
Exactement. Mike Nichols, c'est quelqu'un qui a écrit un livre chez Ombre Noire il y a quelques années qui s'appelait Du sang sur l'arc-en-ciel. Et justement, pour évoquer cette nation arc-en-ciel qui était censée être la nation dans laquelle cohabite post-apartheid, dans laquelle cohabitent toutes les ethnies, toutes les classes sociales de façon complètement harmonieuse. Et lui, en fait, dans sa littérature qui est très sombre, il cherche à contrebalancer cette fausse idée, d'après lui, d'arc-en-ciel en Afrique du Sud, en disant mais non, en fait, le pouvoir complètement corrompu entretient la guerre des gangs, entretient les tensions ethniques, les tensions raciales et les tensions entre les classes sociales en Afrique du Sud aujourd'hui pour servir sa cause et pour servir ses intérêts. Et ça, c'est très fort chez lui et ça irrigue tous ses bouquins.
C'est un peu l'anti-Invictus. Invictus, vous vous souvenez, c'était le plus mauvais film de Clint Eastwood avant le 15h17 pour Paris. Et c'était quand même assez copieux de lourdeur humaniste, entre guillemets. Et voilà, et ça, c'est l'inverse de ça. Et ça fait moins rire, c'est vrai. Voilà.
Mike Nichols, Powerplay, c'est au seuil dans la collection Cadre Noir. Satanas.
Voilà, Satanas.
Valère Etro, Satanas.
Satanas de Mario Mendoza, là, qui est publié chez Asphalt, aux éditions Asphalt, et qui nous plonge dans le Bogota des années 1980. Alors, Bogota marqué par la violence, et cette violence va être traduite dans ce roman par le biais de d'une croyance dans les manifestations surnaturelles des forces démoniaques, et tout ça sur fond de foi catholique et de foi religieuse. Donc, on a un prêtre qui est le père Ernesto, qui voit un homme arriver dans son église et lui dire « J'ai envie de tuer ma femme et ma fille, j'entends des voix qui me poussent à le faire. » Et puis, qui le soir revient et qui lui dit « Je suis passé à l'acte et c'est votre faute. » Et ce père Ernesto va se retrouver entouré comme ça de personnes qui viennent lui dire « Il se passe des choses, des forces sont à l'œuvre dans ma vie, dans le pays, dans la ville, qui me poussent à faire le mal. » Il va y avoir un peintre qui se met à peindre et qui est en transe quand il peint et qui peint les maladies dont vont mourir ses modèles. Et puis, il y a une fille de 15 ans qui est possédée par le démon. Le père Ernesto va essayer de l'exorciser, mais il va se retrouver soumis à la tentation et potentiellement
tentation
il va...
De quoi
tentation de quoi tentation de commettre le péché de chair avec ce fameux démon qui habite
avec le démon
la jeune fille, exactement. Oula. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on est vraiment dans un texte qui évoque d'ailleurs... qui évoque l'exorcisme de William Peter Blatty, par exemple. C'est un livre très fort, c'est un livre à l'origine, l'exorciste. Cette littérature qui part du principe que oui, le mal peut être à l'œuvre dans la vie de l'homme et s'exprimer, que des forces maléfiques peuvent s'exprimer à travers la vie humaine. Et toutes ces forces-là vont converger vers un crime de masse qui sera commis à Bogota dans les années 80. Et finalement, voilà, cet auteur décrit les tourments de l'âme humaine et cherche à expliquer la notion de mal et de malfaisance chez l'être humain à travers cet éclairage mystique et cet éclairage horrifique de la possession démoniaque. Donc c'est un livre qui est glaçant et qui en même temps explore avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de talent la question du double maléfique de l'homme et du bien et du mal.
Hubert Prolongeau. Le père Prolongeau a voilà. Une analyse. Vous qui avez fait la Tour de France des,
et voilà, exactement.
Des sorciers, mages et autres nécromants.
Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ça dans ce livre. On y retrouve surtout une ambiance qui est rarement rendue aussi justement de mélange de violence et de mysticisme qui est très présent en Amérique latine. Et j'ai retrouvé ça. J'avais fait pas mal de reportages justement en Colombie dans les années 80 au moment du cartel de Medellín triomphant. Et y avait cette atmosphère mêlée à la fois de violence qu'on disait beaucoup et aussi de magie qui était beaucoup plus tenue sous le boisseau, beaucoup plus, mais on attribuait des tas de crimes à la magie, il n'y avait pas que les narcotrafiquants, et tout ça est très, très bien rendu dans ce livre
Il existe attachant. Même l'affaire célèbre au Mexique, qu'on appelait le narco-satanisme, l'affaire de Matamoros, qui a été mise en scène dans Plus d'un polar et qui justement montre le mixte entre la folie délirante des trafiquants de drogue et puis la résurgence de cultes sataniques et lucifériens, évidemment tout cela remouliné par la culture locale et par le folklore. Mais ça, c'est deux, je dirais, là c'est opposé, mais c'est des éléments qui peuvent se marier assez efficacement, Élise Lépine.
Oui, et c'est un biais qu'on voit peu dans le polar et surtout dans nos pays, en France, ou plus rationnel, où ça peut paraître complètement ridicule. Et si on le fait, il va y avoir finalement à la fin, c'était un trucage orchestré par un tel. Là, vraiment, on reste dans cette idée que oui, il y a un démon qui, à un moment donné, s'est mis à circuler parmi les personnages de ce polar, et ça explique, ça éclaire l'issue du polar, qui est très dure et très violente. Et finalement, c'est un point de vue qui est intéressant dans la littérature criminelle aussi.
Satanas de Mario Mendoza, c'est chez Asphalt. On termine ce cercle noir polar avec la petite gauloise, une petite gauloise de Jérôme Leroy, Monsieur Hubert.
Eh bien moi, cette petite gauloise m'a ravi, j'en ai tiré des bouffées hilarantes. Non, c'est une histoire très contemporaine, de terrorisme, mais qui est une suite de croquis, de caricatures, de clins d'œil amusés sur une espèce d'absurdité de notre monde, avec un sens de la formule assez remarquable. C'est très, très drôle. On y rencontre des profs frustrés, on y rencontre des crétins de banlieue, on y rencontre des terroristes un peu bas du crâne, on y rencontre toute une espèce de comédie humaine qui est comme ça dessinée à quelques traits et qui est assez juste. Alors ça n'a pas l'ampleur, ni la réflexion, ni toujours les ambiguïtés des autres romans de Jérôme Leroy, Le Bloc en particulier, puisque là aussi ça tourne encore autour du terrorisme, de l'extrême droite. Il y a vraiment une qualité de regard et un sens de la formule qui font mouche très très souvent.
Mouche, Élise Lépine ?
Mouche, mais c'est vrai qu'il y a ce côté caricature qui frappe un peu et qui est étrange quand on aime Jérôme Leroy et qu'on aime ses livres. Là, je trouve qu'il caricature son propre style et ses propres idées pour parler d'une France qui se caricature d'ailleurs elle-même également. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a un peu étonnée dans ce livre, c'est qu'il évacue complètement la possibilité de la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que rien n'est jamais la faute de personne dans ce roman. Les deux flics qui tuent un autre flic au début comme bavure policière, parce qu'en fait c'est un arabe, finalement c'est pas leur faute, c'est la faute du Front National. Les gamins à l'école qui vont violer leur copine, c'est pas leur faute, c'est la faute de l'éducation. Le prof qui a des pulsions, qui met sa main aux fesses de l'intervenante, c'est pas sa faute, c'est parce que il est dans la misère sexuelle, cette fameuse misère sexuelle. Donc c'est vrai que ça a un côté quand même un peu étrange, mais en même temps, quand on connaît Jérôme Leroy, on peut être aussi sensible à ça, c'est-à-dire ce côté rousseauiste, dans cette idée que l'homme est bon par nature et que c'est la société qui le corrompt. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais bon, Jérôme Leroy, c'est quand même c'est un grand pédagogue au cœur brisé qui ne veut pas renoncer à son espérance que, dans le fond, tout soit une question d'éducation et qu'on puisse encore changer l'être humain. Il y a plusieurs histoires tirées par les cheveux de rédemption dans ce livre avec, finalement, le flic qui a commis une bavure, il devient, altermondialiste, etc. C'est totalement c'est pas possible, il le sait, Jérôme Leroy. Mais en même temps, sa fatigue, son espérance et son style, on ne peut que les respecter. Après, on peut être aussi un peu agacé par cette idée de c'est jamais la faute de personne et c'est plus dangereux de lire Rimbaud que d'écouter un imam dans une banlieue, dans une mosquée illégale. C'est pas vrai, moi je suis pas d'accord avec ça.
Comment ça, c'est pas dangereux de lire Rimbaud ?
Ben, je ne savais pas. En tout cas, on découvre que c'est Rimbaud qui a été finalement le moteur. Alors, c'est un peu le lapin tiré du
dernier
chapeau.
Mot, oui, mais parce qu'il y a un goût du paradoxe amusant, parce que je pense que c'est surtout un livre qui ne se prend pas au sérieux. C'est un livre qui met en scène des figures qu'on voit dans tous les journaux télé et qui ont un sérieux que là, le roi élimine avec une plume assez décapante et assez amusante. C'est une espèce de miroir déformant qui est assez drôle. Et qui dit quelques vérités souvent, malgré effectivement cette optique.
Mais qui fait preuve de beaucoup de mauvaise foi aussi, il faut le
dire. Oui, mais
ça fait
partie
du
jeu.
Ça fait le charme du roman.
On fait jamais rire si on est totalement de bonne foi.
Oui.
Voilà, manufacture de livres. Donc, à lire La Petite Gauloise de Jérôme Leroy. Alors, je ne sais pas si c'est dangereux de lire Rimbaud, mais c'est en tout cas très dangereux de voir Rivette.
Étonnante et détonnante, la plus époustouflante, elle est mystérieuse, la plus enjôleuse, la plus sulfureuse.
Julie.
Oui.
Bonjour les enfants.
Salut Julie, comment ça va?
C'est Céline, j'ai deux mots à te dire.
Coucou, c'est qui?
Mais tu vois quoi?
Voilà un peu de ragtime pour introduire à l'univers de Jacques Rivette, qui vient d'être largement hommagé. Je ne sais pas si le mot est très français ni très beau. Enfin, en tout cas, à se précipiter effectivement sur les deux Blu-ray et DVD qui viennent de paraître chez Potemkin. Céline et Julie vont en bateau et le pont du Nord. Alors, je vais ouvrir les vannes de l'enthousiasme tielmantien pour parler de Jacques Rivette. C'est en effet votre cinéaste, enfin un de vos cinéastes.
Ouais, avec David Lynch, facile, mon cinéaste préféré, oui.
Alors Céline et Julie vont en bateau.
Alors Céline et Julie vont en bateau, c'est son cinquième film, si je ne dis pas de bêtises. Il a commencé avec Paris nous appartient. Paris nous appartient qui s'ouvre, et ça pouvait que vous faire plaisir François, par une citation de Peggy.
Ben, oui.
Paris n'appartient à personne. Mais c'est une citation qui est un peu cryptée parce qu'elle vient de ce passage de Victor Marie Comte Hugo de Peggy, où il crée deux nouveaux partis politiques. C'est au moment où il expliquait à Lévy qu'il crée deux nouveaux partis politiques. Dans l'un, à Lévy pourra rentrer puisque c'est le parti des hommes de 40 ans. Et dans l'autre, par contre, il dit je suis pas sûr que vous aurez votre place. C'est le parti des hommes qui restent à Paris en été.
Dans les deux,
le parti de ceux qui restent à Paris en été. Et en fait, les films de Rivette sont pour beaucoup des films de gens qui restent à Paris en été. Et c'est véritablement un autre univers. Alors, c'est le moment où quelque chose, en fait, change un peu dans l'air. C'est le moment où on commence à marcher un peu sans raison, on commence à flâner, on commence à errer. Et en fait, ce qu'on cherche, finalement, c'est des rencontres. Ce qu'on cherche, c'est rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous changer votre vie, quelqu'un qui va peut-être vous libérer de quelque chose, vous libérer d'une prison, vous libérer d'une prison mentale, vous libérer d'une prison psychique, d'une prison spirituelle. Et c'est une idée en bateau, dans ce film-là. En fait, le film se construit un peu comme pourrait se construire une amitié, c'est-à-dire que le film commence avec ces deux magiciennes. Donc c'est Julie, qui est une bibliothécaire, c'est la
Dominique
Rousse.
Dominique
Labourier. C'est une bibliothécaire qui est plongée dans les livres d'occultisme, elle est plongée dans le traité méthodique de magie pratique de Papus, qui trace des pentacles sur le sol dans un square. Et là passe une autre magicienne, Céline, mais elle, c'est une illusionniste. Donc on a d'un côté un savoir purement de bibliothécaire, et de l'autre côté un pratique, mais enfin pratique, c'est de l'illusion, quoi. C'est pas de la magie, machin, pour ainsi dire. Et Céline, elle, donc elle travaille dans une espèce de petit cabaret sur Montmartre, où elle joue la mandragore. Elle est déguisée en mandrake.
Cabaret qui est tenu par Jean Douché, d'ailleurs.
Oui,
c'est drôle.
Oui, très drôle, en espèce de...
en patron de boîte.
Patron de boîte un peu macro.
Mafieux, oui.
Un peu mafieux, un peu macro, pas marron, quoi.
Voilà.
Et dans les clients, on a Jean Eustache.
Voilà.
Donc on a tout un univers. Et ça se construit comme une amitié entre ces deux femmes, mais aussi le film s'est construit comme une amitié, c'est-à-dire que Rivette décide de faire un film avec Juliette Berthaud. Ils savent pas exactement sur quoi ils vont partir, mais ils ont vu ensemble Le Petit Théâtre de Jean Renoir, dans lequel il y avait Dominique Labourie. Ils se sont dit, elle est bien celle-là, si on fait un film avec elle. Et c'est quasiment si vous deveniez amie, ou si Juliette Berthaud qui dit si je devenais amie avec cette femme. C'est, elle va la chercher un peu comme finalement Julie va chercher Céline. Et en fait, c'est toute une vision de la, des relations humaines qui sont, comment dire, qui sont enfin libérées de tout ce qui les sépare, qui sont des mauvais amours, des amours malades. On en a dans le film. Il y a l'amour maladif qu'a la bibliothécaire pour son Guilou, qu'on découvre un moment dans le film, qui est hilarant, son amour d'enfance, et des mauvaises rencontres comme celle de Céline, et aussi des traumatismes d'enfance. Et tout ça, c'est lié à la magie, c'est lié à une approche enfin, sans jugement de la magie. Si j'aurais un truc à dire vraiment spécial par rapport à ce film, qui est spécial à tant de points de vue, trois choses vraiment clés. C'est un film qui répond à quelque chose de très très rare dans le cinéma, qui est l'amitié entre deux femmes. Donc c'est un film qui travaille sur la question de l'amitié entre deux femmes. Il y aura Recherche Suzanne désespérément. Il y a la question du conflit entre la culture populaire et la culture académique. Ce film se situe dans deux espaces différents qui sont écrits de façon totalement différente. On a le film de Céline et Julie et qui lui joue avec le sérial. Il y a des références au vampire de Feuillade, la bande dessinée, il y a des références au fantôme du Bengale comme à Mandrake le magicien, à Lee Falk. Et à Tintin, et donc tout l'univers de la culture populaire face à l'univers de la culture académique qui est, lui, joué dans la maison du Nadir aux Pommes, qui est une maison où les choses se répètent
voilà,
en boucle.
Il faut dire aussi à nos auditeurs qu'elles ont capacité de passer d'un monde à l'autre.
Tout à fait.
Donc le leur, qui est un monde léger, musical, aérien,
imprévu, estival,
et puis un univers clos, dramatique, où on tourne à l'intérieur comme une roue, comme dans une roue de meule. Enfin, on est véritablement pris dans une histoire qui recommence en permanence.
Donc, qui se perpétue. Une histoire perpétuelle, un récit perpétuel, un récit cyclique, comme une pièce de théâtre pourrie qui se répète en permanence dans une maison, et c'est la mort d'un enfant. Alors c'est inspiré d'un roman d'Henry James, cette partie-là, de l'autre maison. Et en fait, les questions qu'elle se pose, c'est qui a tué l'enfant ? L'histoire se reproduit de plein de manières, et elles rentrent dedans, elles sont attrapées dedans. Quand elles en ressortent, elles sont encore dans une espèce d'état de demi-amnésie. Elles doivent se réveiller ensemble, elles essayent de recomposer l'histoire. C'est un des très grands films fantastiques français, quoi. C'est pas non plus comme si on en avait des kilotonnes.
Et Hubert Prolongeau.
Et moi, j'en garde le souvenir, je l'ai vu il y a plus longtemps que vous, mais un film d'une liberté absolue et d'une sorte d'état de grâce où on est mené comme ça, sans jamais être interloqué, sans jamais avoir le sentiment d'incohérence, sans jamais avoir le sentiment qu'on nous perd parce qu'on ne sait pas trop où on va, et en même temps sans fil directeur réel, sans, on sent que un peu ce qu'était aussi Outouane, donc un film où les gens se laissent aller et où il y a une espèce de miracle qui se produit quasi tout le temps et qui reproduit jusqu'à la fin. Et je me demandais, parce que c'est aussi un grand film d'actrice, ce qu'est devenu Dominique Labourier. Je me souviens d'avoir revu après un peu chez Goretta dans un feuilleton, on disait pas série à l'époque, de Marco Picot, qui s'appelait Paris Saint-Lazare, qui était un petit miracle de justesse. Et puis elle a disparu, en fait, et c'est dommage.
Ah oui, je suis d'accord. Elle a fait du théâtre. Mais c'est vrai qu'on l'a perdu de vue, Dominique Labourier, beaucoup. Et Juliette Berthaud, on a pu suivre après toute sa carrière même de réalisatrice extraordinaire. Absolument géniale.
Neige, Cap Canaille.
Enfin, en tout cas, c'est un des rares films qui tente d'utiliser, je dirais, la vision surréaliste et surtout le mode de vie surréaliste, puisque c'est un film ouvert, un film disponible, improvisé, rebondissant. Où le hasard objectif joue son rôle, où les rituels jouent leur rôle, où le passage d'un monde dans l'autre est également perpétuellement présent. Puis c'est en même temps un hommage au cinéma muet, avec un moment les deux héroïnes ont les collants de Musidora, et puis il y a des cartons, donc l'hommage au sérieux, au cinéma muet, à Feuillade et aux Américains, à la bande dessinée. Donc film d'une légèreté et d'une sorte de permanente improvisation, et en même temps, à aucun moment ça ne dérape, ça ne...
Et ça n'est pesant.
Non, voilà. C'est incroyable à ce niveau-là. Bon, alors aussi, les spectateurs ont changé, parce que je me souviens, quand j'ai découvert ce film, j'avais une vingtaine d'années, c'est un film que j'ai revu, je sais pas quoi, 40 fois, 50 fois. Non, mais c'est vraiment un de mes films favoris. J'ai vu beaucoup de fois les films de Rivette, mais celui-là spécialement. Et à l'époque, les gens le trouvaient trop long.
Il fait 3h15.
3h15, c'est ça. On le trouvait trop long. Et on disait, et puis on disait souvent, Rivette, c'est bien, mais il pourrait faire plus court. Mais comme je pense que les spectateurs aujourd'hui ont eu l'habitude des séries très très longues, donc ils ont plus le même rapport au temps, ils ont plus le même rapport au rythme. Et donc, du coup, 3h15, ça s'avale comme ça maintenant. J'ai vu vraiment le changement par rapport à des spectateurs plus récents de Ciné-Julie Dantomato, par rapport à ceux que j'avais vus il y a une vingtaine d'années. Le troisième chose que je voulais dire, quand même, qui est à mon avis une des choses vraiment clés par rapport à ce film et qui le différencie de tant et tant de fiction, mais qui va dans votre sens, François, c'est que c'est un film qui a une vision positive intégralement de la magie. C'est quelque chose d'extrêmement rare, et dans la littérature et dans le cinéma. Parce que normalement, les magiciens sont punis. C'est un hubris. On s'est écarté de l'ordre de la nature. On a commis un geste, et ce geste-là, on peut ou l'interpréter comme un espèce d'orgueil satanique, démoniaque, ou alors comme de l'imprudence, c'est l'apprenti sorcier. Mais de toute façon, on va être abroué. Et là, on a véritablement un film qui démontre la nécessité d'être magicien ou la nécessité d'être magicienne. C'est là où ça va dans le sens de ce dont nous a parlé Céline tout à l'heure, qui prépare ses émissions sur les sorcières. C'est là où c'est aussi un film qui est très féminisme moderne, Starhawk, voyez, les sorcières. C'est-à-dire qu'ils disent non, dans ce monde-là, de toute façon, la magie préexiste à votre pratique. C'est-à-dire, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que de toute façon, la magie préexiste à votre décision. Donc, la seule façon que vous aurez de vous sortir de ce monde-là, c'est de comprendre ces règles pour pouvoir réouvrir les portes et recréer de l'amitié. C'est un grand film sur l'amitié aussi.
Oui, moi, je voulais juste dire effectivement que ça s'inscrit dans quelque chose de très moderne. Vous disiez féminisme moderne, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en ce moment de gens qui râlent en disant dans le cinéma, on entend plus les hommes que les femmes et on ne parle jamais des femmes dans leur amitié ou hors rapport sexualisé ou de séduction. Oui. Donc là, on est vraiment en plein dedans et c'est vraiment très...
C'est le cinéma de Rivette est comme ça. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Céline-Jules vont en bateau. C'est quelque chose qui est une des constantes de son cinéma. C'est un cinéma où la parole des hommes, elle utilise 20% de son cinéma ou 10%, je sais pas. C'est des films de femmes. C'est La Bande des Quatre. C'est aussi un groupe de filles.
Au bas fragile.
Et Le Pont du Nord, dont on va dire quelques mots aussi.
Quelques mots, oui, il reste 2 minutes pour Le Pont du Nord.
Deux minutes pour Le Pont du Nord. C'est pas grave parce que le temps du Pont du Nord est à venir parce que c'est un film encore qui n'a pas révélé tous ses secrets. Ça se situe, si vous voulez, c'est une femme qui sort de prison, Marie. Elle rencontre une autre femme, Baptiste. Elles sont jouées l'une par Bulogier, l'autre par Pascal Augier. Pour des raisons différentes, toutes les deux vont rester dehors. Marie parce qu'elle peut plus supporter d'être enfermée nulle part, Baptiste parce qu'elle n'a pas vraiment d'endroit où aller. Et en fait, elles vont se retrouver prises dans une espèce d'intrigue qui les dépasse, avec une serviette qui contient une carte, des documents. Elles sont suivies par un espèce de groupe d'hommes qui s'appelle les Max, qui est dirigé par un Max spécifique, qui est joué par Stévenin, et quelques autres Max autour. Et c'est comme un jeu de pistes dans Paris, sur le modèle du jeu de loi. Et quand on le revoit plusieurs fois, on se rend compte en plus que les différents endroits où elles vont correspondent véritablement à des numéros du jeu de loi, des cases du jeu de loi. Et c'est donc une espèce de jeu de loi qui renvoie à une espèce de vision du samsara ou un récit qui s'est répété aussi, qui se répète encore. Il n'y a pas la dimension fantastique de Céline-Jules Lantembato parce qu'il ouvre une nouvelle période du cinéma de Rivette qui va être son cinéma des années 80, qui va être, on va dire, lié au fantastique, mais un fantastique sourd ou un fantastique implicite. Et c'est des films très, très mystérieux. Ça devient encore plus mystérieux. Un élément mystérieux, parce que ça fait partie de Mauvais Genre et c'est quelque chose qui revient dans Mauvais Genre. Pour moi, un truc que j'ai trouvé très étrange, il y a une citation de Jean Carteret dans Le Pont du Nord. C'est un moment où on dit le jour appartient au pouvoir, la nuit, le pouvoir appartient au jour, la puissance à la nuit. Et voilà.
On vous dira un jour qui est Jean Carteret. Merci, Pacôme, pour ces évocations, Hubert Prolongeau, ces évocations de Jacques Rivette à découvrir en DVD Blu-ray chez Potemkin. On termine cette émission, bien sûr, avec le Maître Bire.
La littérature populaire s'est déclinée sous toutes les formes. À l'inverse des sagas feuilletonesques et des récits touffus, des très courts romans offraient des moments fugaces d'évasion, le temps d'un trajet ferroviaire ou à la pause déjeuner. Le format modeste, la faible pagination et la souplesse du brochage permettaient ce tour d'illusion, sortir du rêve de ses poches. Par leur format 10,5 sur 15 cm, les quatre premiers volumes de la collection suisse Pulp, des productions Lubricabrac, réinvente cette recette rétro en l'épissant d'une forte dérision. Dans cette tradition industrielle, les auteurs prennent d'improbables pseudonymes anglo-saxons. On peut soupçonner Patrick Morier-Genoux qui signe l'avant-propos et pour lequel cette anonymisation est un contre-pied à la glorification de l'ego dans le monde du livre. Pulp est aussi un doigt furteur au bon goût, un détournement érotico-gore des genres qui rappelle l'irrespect des romans de la Brigandine. Sexe, violence et viscères sont au programme des 94 pages. Le pistolero et l'assassin aiment les gros seins d'Albert Wesley Wilson confrontent un chasseur de primes déprimé à une momie tueuse. Pedro Cabrera, très à l'aise dans l'arène doupe écoutée de Slick Jones, narre l'enquête laborieuse d'un privé hard-boiled qui ne croise que des vampes torrides. Le clin d'œil n'est jamais loin, l'une des mignonnes se nommant Rosa Maria Almiral, véritable patronyme de la muse de Jess Franco, Lina Romay. Zombie lubrique sous les tropiques de Wellman Broad convoque la frénésie glauque de Joe D'Amato et les mauvaises pulsions du cinéma bis italien. Au centre d'une machination sur fond de malédiction ancestrale, un détective minable sombre dans l'inconscience. La collection voue un culte aux loques déliquescentes. La crasse et la déchéance sont les deux jambes flageolantes de Rick, ex-cadre qu'un licenciement a transformé en clochard malpropre, vomissant de peur dans « Tripes et boyaux » dans le métro de Roy Bun Reeves, mon préféré de cette cuvée. Il se réveille, imbibé de vinasse, dans les couloirs d'un métro, pataugeant dans un cloaque de corps démembrés, les restes d'une martiale patrouille de police. De monstrueux carnassiers raclent le sol de leurs ongles griffus, exacerbant chez l'épave une ultime vaine envie de survie. Sous terre, près d'une rame éclaboussée de sang, la Twilight Zone de Lubricabrac engloutit son clodo dans l'intestin d'un cauchemar risible. En couverture, les acryliques de Julien Kayser saisissent toute la démesure de ces récits colorés à grands traits.
Voilà, la Twilight Zone de Lubricabrac. Merci Christophe Beer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi et participé à cette émission. Je rappelle les titres évoqués ce soir. Jack Hiss, Mange tes morts, c'est chez Super 8 Éditions. Mike Nicol, Powerplay, c'est au seuil dans la collection Cadre Noir. Satanas de Mario Mendoza, c'est aux éditions Asphalt. Et La Petite Gauloise de Jérôme Leroy est publiée à la Manufacture de Livres. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alain Joubert, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Comme tellement Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dédiée à la peur avec Dario Argento et Maurice Level. D'ici là, bonne nuit à tous. Summer is gone for attachment to the season. Story I'm told, but a story too fast for me. Slowly we know, slowly we need. As a kite.
Summer is gone.